Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui notre grand dossier sera consacré à une partie de notre corps que nous avons tendance à négliger, nos pieds. Et plus précisément cet après-midi, nous allons parler de la santé du pied, des pieds de nos enfants. Savez-vous jusqu'à quel âge on considère qu'ils sont en formation? Savez-vous comment bien chausser vos enfants pour respecter la physiologie de leurs pieds et quels sont les problèmes qu'il faut surveiller pour éviter des soucis à l'âge adulte? Pour en parler, nous recevrons Djamed Bouhabib. Il est podologue et président de l'Union française pour la santé du pied. Ensuite, dans notre chronique, les maux du quotidien. Focus aujourd'hui sur un examen peu connu, le myélogramme. Dans quelle situation est-il indiqué? Comment se déroule précisément cet examen de la moelle osseuse? Bien sûr, nous vous dirons tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de la libido des hommes qui peut parfois être perturbée par la grossesse de leur moitié.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va écouter la première, c'est celle d'Alain.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'ai vu qu'un labo avait arrêté les essais pour un vaccin potentiel contre le coronavirus. Je voulais savoir pourquoi et où est-ce qu'on en était, si on était encore loin. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres tests, mais est-ce qu'on a une chance du coup?
Alors, une fois de plus, une question coronavirus, Jimmy, pour démarrer cette émission. Et c'est bien normal, évidemment. Alors Jimmy, concernant cet essai clinique qui a été arrêté, effectivement, on en a parlé la semaine dernière, il me semble, en fait, il a même repris son cours, je crois, depuis. Expliquez-nous précisément, on va dire, ce qui s'est passé. C'est l'essai d'AstraZeneca, je crois, du laboratoire.
Exactement, c'est un des labos qui met au point un des vaccins. Donc probablement qu'on aura plusieurs labos et donc plusieurs vaccins. Et dans un des bras où il y avait 10 000 patients, il y a un patient qui a développé une myélite transverse. C'est une atteinte de la moelle épinière qui, évidemment, a des conséquences assez graves puisque c'est celle qui va transmettre l'information. Mais c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les essais cliniques où il peut y avoir des effets soit liés directement au médicament, soit un effet qui va être inattendu. C'est-à-dire que pendant l'essai, notamment chez l'animal, eh bien on ne savait pas que ça pouvait arriver. On ne l'a pas constaté. Ou un effet grave lorsque le malade est hospitalisé. Et c'est le cas. Maintenant, la question, c'est celle de l'imputabilité. Est-ce que le malade qui a développé une myélite
Qu'il l'aurait peut-être déclaré sans le vaccin.
Puisque
c'est ça.
La myélite, c'est une maladie auto-immune qui est déclenchée par des virus. Sauf qu'on ne sait pas exactement quel virus. Or, dans ce vaccin, on va vacciner les personnes contre le coronavirus à partir d'une enveloppe d'un autre virus qui est un adénovirus. Et donc, est-ce que c'est lié au coronavirus en lui-même ou est-ce que c'est lié à l'adénovirus? Et bien finalement, l'essai a repris car il considère que ce n'est pas lié à la vaccination et qu'on peut poursuivre l'essai.
D'ailleurs, Jimmy, un essai clinique, que ce soit pour un vaccin ou pour un autre type de médicament, le fait qu'il y ait un arrêt, que ça soit stoppé à un moment donné, c'est peut-être même plutôt un gage de sérieux. Ça veut dire qu'on fait les choses, on va dire, avec vraiment le suivi strict des protocoles expérimentaux.
Exactement, c'est plutôt rassurant d'avoir des effets secondaires. Parce que si on vous dit que tout va bien systématiquement, c'est que peut-être on a fait ça un peu à la va-vite. Or, là, l'essai s'est arrêté. On était dans un essai de phase 3, c'est-à-dire qu'on teste l'efficacité vaccinale et puis la tolérance à une grande échelle. Les données semblent plutôt rassurantes et donc il faudra la réévaluer ensuite puisqu'il y aura une phase 4. Après la mise d'autorisation sur le marché pour savoir s'il y a d'autres effets secondaires sur une plus grande population.
Une dernière toute petite question sur ce sujet, Jimmy. Donald Trump a déclaré il y a quelques temps, même si on se méfie toujours de ce qu'il déclare, qu'on aurait un vaccin dans un mois, ça vous semble plausible?
Le même labo espère avoir un vaccin à la fin de l'année ou au plus tard au premier trimestre 2021. D'autres labos sont sur les mêmes pistes, donc pourquoi pas? Bon, on attend déjà au moins les tests salivaires, ça nous permettra d'éviter un hiver un peu compliqué.
Très bien Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est la question de Bruno, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je vous appelle aujourd'hui parce que on avait comme projet avec la petite famille d'adopter un petit animal, alors soit un chiot, soit un bébé chat, sauf que mes deux enfants sont allergiques aux acariens et je voulais savoir si ça posait problème au vu des antécédents. Voilà, merci.
Bon, question pratique, Jimmy, des enfants allergiques aux acariens, est-ce que ça peut poser problème d'avoir des animaux? C'est les acariens, les poils de chat, c'est pas la même chose. Mais...
C'est pas la même chose, c'est 20-30% de la population française est allergique, ça a doublé
ça
en
a
20
court,
ans.
Allergique
c'est
à quelque court. Chose. Ouais.
Et en revanche, on sait que l'allergie, notamment aux chats et aux chiens, c'est quasiment 10% de la population, même s'il y a plus d'allergies aux chats qu'aux chiens. Donc c'est moins risqué d'avoir un chien, mais vous pouvez aussi être allergique aux oiseaux, aux lapins et même aux bovins si vous décidez d'adopter un mouton.
Une vache.
Attention, il est
possible. Une vache, bovin, pas un mouton. Enfin,
le mouton, c'est pas un bovin.
Non. Bon, vous êtes médecin, pas agriculteur, ça tombe très très bien. Merci. Alors, pour l'allergie aux bovins, on y reviendra, mais de toute façon, en vue d'une adoption pour un animal, un chat par exemple, on peut peut-être faire des tests justement, c'est pour savoir si on est allergique au chat.
Bah oui, mais déjà, allez
ou
chez
bovins.
Aux bovins comme le mouton, allez chez des amis qui ont un chat, ça permettra de savoir si vous faites une allergie, puisque souvent l'allergie respiratoire va se manifester assez vite, ou sinon il existe des tests cutanés que l'allergologue vous fera pour savoir si t'es allergique aux bovins ou même aux chats, mais plutôt aux chats. Et donc c'est possible de le faire effectivement, des tests. Surtout que, attention, on n'est pas allergique aux poils de chat, mais d'une protéine qui est sécrétée dans les glandes salivaires du chat.
Ah oui, on se trompe,
le chat va se lécher
le poil de chat.
Voilà,
en
exactement,
fait.
Le chat va se lécher les poils et va déposer des poils un peu partout.
Et donc, le bovin, il se passe quoi chez
le bovin? La laine de mouton. Je suis sûr qu'on peut être allergique à la laine de mouton. J'ai un cousin, pas très loin d'ici, qui est allergique à la laine de mouton. Bref, bon, vous avez compris, faites-vous tester.
Merci,
et surtout, attention.
Jimmy, on va s'arrêter.
Mais on peut se désensibiliser, ça marche. Ça dure assez longtemps, ça marche pas toujours, mais allez voir l'allergologue. Voilà,
c'était vraiment super. Je crois que c'était la meilleure question de l'année, la meilleure réponse, Jimmy. Merci. Alors, si vous aussi, comme Bruno, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout. N'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Jamel Bouhabib. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes pédicure-podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Avec vous aujourd'hui, on va parler du pied, des pieds en général, mais surtout des pieds de nos enfants. Les tout petits petons, qu'on aime bien d'ailleurs, ils sont tout petits, tout dodus. On va en parler, ils sont en croissance surtout jusqu'à un bon moment, on ne le savait pas. Comment on en prend soin? Parce que, est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui les parents s'intéressent assez à la santé des pieds de leurs nouveau-nés, de leurs enfants, autant que, je ne sais pas, des rappels des vaccins, autre chose, ou est-ce que ce n'est pas une préoccupation majeure des parents?
Alors, prendre soin de la santé des pieds chez les jeunes enfants, alors on va dire que les parents s'intéressent en priorité, bien entendu, à tout ce qui va être vaccin, c'est un petit peu normal, d'autant plus qu'à cet âge-là, dès l'âge du nourrisson, l'enfant ne marche pas. Donc, ce n'est pas encore la priorité des parents.
À part
les
bisouillés des pieds, c'est tout ce qu'on
voilà, alors après, ce qu'on attend, effectivement, c'est le moment où l'enfant, le jeune nourrisson, va atteindre la bipédie, c'est-à-dire le fait de se mettre debout, l'âge de la première chaussure, l'âge des premiers pas. Mais c'est vrai qu'on va avoir un œil moins attentif sur le reste de la santé.
Jimmy ?
Mais justement, est-ce que des pieds maltraités dans l'enfance, alors parce qu'on les a ignorés, ça peut avoir des conséquences à l'âge adulte ou en grandissant ?
Oui, absolument. Alors notamment, puisqu'on parle des premiers problèmes, c'est par exemple le mauvais chaussage. Donc le premier chaussage, la première bonne de chaussure est vraiment indispensable pour permettre aux pieds de développer une croissance harmonieuse. Sinon, on va avoir des contractures qui vont se fisser, des orteils qui vont se mettre en griffe et puis toutes les problématiques qui en résultent.
Alors justement, je parlais tout à l'heure du côté dodu des pieds des bébés. On trouve ça très mignon, on a envie de les croquer. Mais justement, ce côté dodu, il faut s'en méfier parce que ça confère finalement à ce petit pied une espèce de résistance à la douleur. Donc, il faut faire attention.
Oui, alors cet aspect dodu du pied, comme ça, à la naissance,
à peu près
jusqu'à 2 ans, en fait, c'est un pied qui est dodu parce qu'il est plein d'amas graisseux, en fait. Donc, avec cet amas graisseux, l'enfant va augmenter la surface portante au niveau du sol. Et c'est lors des premiers pas que cet amas graisseux va avoir toute son originalité, puisqu'elle va permettre à l'enfant, un petit peu comme un 4x4 quand vous avez des grosses roues, de mieux appréhender donc le contact avec le sol. Après, le pied n'est pas fonctionnel, mais si vous remarquez les tout petits, alors je parle
de vous tenez bien droit, Jimmy, parce que vous avez des pieds dodus, là, vous tenez bien sur vos deux jambes,
grands pieds.
Des grands roues.
Et ils lui servent à être debout, alors que chez le jeune nourrisson, vous remarquerez que le jeune nourrisson porte très facilement ses pieds à sa bouche, il les prend à la main. Parfois même, pour les plus doués d'entre eux, ils s'en servent presque un petit peu comme des pinces
à jouer avec
leurs pieds.
Et ça, c'est très bien. Il faut les encourager à faire ça, je crois.
Il faut les encourager. Il ne faut absolument pas chercher à ce qu'ils marchent rapidement. Il ne faut absolument pas chercher à les chausser. Au maximum, on leur donnera une paire de chaussettes pour éviter d'avoir froid.
Jimmy.
Question cruciale, à partir de quel âge on met des chaussures à un enfant? Ça a été une question, une bataille avec ma femme, parce qu'elle voulait absolument mettre des chaussures. Moi, je ne voulais pas. Est-ce qu'on doit attendre l'âge de la marche? Est-ce que des fois, dès la maternité, on voit des parents mettre des petites chaussures au bébé?
Il y en a avec des marques. Bon, tout ça, c'est du marketing, mais il y a des chaussures de marque très chères pour des petits bébés qui sont très loin de marcher.
C'est pour les parents qu'on fait ça d'ailleurs.
À 6 mois, j'en ai vu.
Alors, vous avez raison, Mélanie, on est dans le marketing. L'utilité de la chaussure chez le jeune nourrisson, d'autant plus quand il ne marche pas, elle n'a absolument aucun intérêt. Bien au contraire, on a plutôt tendance à encourager les parents à laisser les pieds le plus libre possible, voire dès que l'enfant va commencer à marcher à quatre pattes, lui mettre une petite paire de chaussettes pour qu'il évite d'avoir froid.
Il y a des petits chaussons physiologiques.
Et puis surtout, dès qu'il va commencer à atteindre la station érigée debout, donc la bipédie, on va plutôt déjà lui mettre une paire de chaussettes ou de chaussures très très fines, antidérapantes. Mais la chaussure, c'est vraiment pas une priorité.
Pourquoi c'est si important de les laisser pieds nus longtemps? Avant, on disait qu'il fallait mettre des chaussures. Enfin, nos grands-mères, en tout cas, elles voulaient chausser très tôt les enfants. Maintenant, on dit laisser les pieds nus le plus possible. Pourquoi c'est important?
Alors, la recherche a évolué de ce côté-là. Les podologues ont évolué dans leur pratique. Effectivement, le fait de ne pas chausser l'enfant dès son plus jeune âge va permettre un meilleur développement au niveau du pied. À titre d'exemple, moi, lorsque je me suis installé, lorsque j'ai fait mes études, on en était encore à conseiller la première paire de chaussures avec la petite voûte à l'intérieur.
Ah oui.
Aujourd'hui, c'est complètement proscrit parce qu'on a des preuves scientifiques que la petite voûte à l'intérieur des chaussures va rendre les muscles du pied, hein, tous ces muscles qui vont aller se contracter pour donner à l'enfant la forme d'un pied physiologique, eh bien, tout cela va avoir du retard à l'allumage et on va augmenter la capacité du pied à devenir ou à rester plat. Donc, on évite ces chaussures et surtout, on les prend sans voûte à l'intérieur.
Jimmy.
Et une fois qu'on a choisi des chaussures, enfin les bonnes chaussures, aussi la taille, je suppose que c'est important. Qu'est-ce qu'on risque si on met des chaussures un peu trop petites, si elles sont un peu serrées? Parce que parfois c'est difficile de se rendre compte quelle
est
la bonne taille.
Si un bébé ne dit pas s'il est serré ou pas, c'est compliqué de savoir, ouais. La pointure.
Alors j'encourage vraiment les parents à acheter les premières chaussures, en tout cas en suivant les conseils de vrais professionnels de la vente de chaussures.
Mais un peu à l'ancienne, hein, vous dites.
Ouais. Voilà, un peu à l'ancienne. En principe, un bon chausseur va avoir ce qu'on appelle un pédimètre qui permet de mesurer avec exactitude la pointure de l'enfant, j'allais dire du bébé, mais pas du bébé, non, de l'enfant. En général, donc, on va plutôt privilégier des chaussures avec du cuir, plutôt montantes.
On va rentrer dans le détail après de la chaussure, mais ce pied-là, il faut l'avoir pas trop petit, parce que sinon, ça fait quoi? C'est les orteils qui sont trop serrés?
Alors, si le pied de l'enfant est trop serré, donc on va créer des contractures, on va placer les orteils en griffe, et tout ça va favoriser donc l'empreinte ou la forme d'un pied creux.
Alors, voilà. On ne peut pas les prendre deux pointures au-dessus, au cas où, comme ça on se dit, au moins là, il n'y a pas de risque de griffe. Hein. Si je les mets, s'il fait du 23, je lui mets du 25, au moins il ne sera pas serré.
Non, parce qu'il faut vraiment que le pied de l'enfant puisse bouger. Alors, le premier conseil, donc, c'est suffisamment large à l'avant, mais il faut vraiment éviter que les orteils ne soient contractés. Il doit y avoir suffisamment de place à l'avant.
Jimmy ?
Parce que les pieds d'un enfant, en plus, ça grandit assez vite. Ça grandit à quelle vitesse, d'ailleurs ? Parce qu'on a l'impression que ça fuse, mais c'est peut-être pas si rapide
Moi,
que ça.
Moi, je dirais une pointure par an, mais je ne sais pas.
Ah,
je
jusqu'à un an. Moi, j'irais deux pointures par an.
Ouais, ah on va parler en centimètres. Je serais plus à l'aise si je vous disais entre 1,2 et 1,4 centimètres par an. Voilà. Après, plus on va grandir. En fait, la pointure va se stabiliser, on va dire plutôt vers l'âge de la puberté, mais en général, l'enfant va prendre 1-2 centimètres dans l'année.
Et ça fait une pointure, c'est ça, 1 centimètre ?
Ça peut faire une pointure, ça peut faire une pointure et demie. Voilà. Donc c'est vraiment important, à chaque fois, voire tous les deux mois, de mesurer la pointure du bébé.
Et juste le pédimètre, on peut peut-être le... Ça n'existe pas, il n'y a pas des outils sur Internet, on ne peut pas imprimer un truc.
Si, ça se télécharge, moi j'en ai.
Si, ça peut se télécharger. Alors de quelle manière on s'en sert, je vous avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est véritablement fiable.
Ouais, donc je crois que j'ai téléchargé un pédimètre aussi sur Internet, je l'ai imprimé, je l'ai mis par terre, j'ai mis mon pied et ça m'a donné exactement ma pointure. Je fais du 37, donc j'ai mesuré tout le monde, toute la famille et c'était fiable. Après, peut-être que tous ceux qu'on télécharge ne sont pas bons, mais chez les Gomez, ça a marché.
C'est une très belle anecdote, je pense que tous les auditeurs d'Europe 1 sont ravis que chez les Gomez, le pédimètre marche. Merci.
Téléchargé sur Internet. Merci beaucoup. Jamel Bouabib, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, Jamel Bouabib. Vous êtes podologue et président de l'Union française pour la santé du pied. Alors on va passer aux détails justement parce que je suis sûre que ça intéresse beaucoup de parents qui nous écoutent concernant le bon chaussage des enfants. D'abord, on va revenir justement à cette physiologie du pied des petits. Et je crois qu'avant 4 ans, on ne le sait pas toujours, mais avant 4 ans, tous les pieds de bébé, tous les pieds d'enfants sont plats.
Oui, alors c'est souvent un motif de consultation au cabinet. Hein. On nous ramène les enfants à 2, 3, 4 ans nous disant voilà.
Il a les pieds plats.
Il a les pieds plats, qu'est-ce que je dois faire? Alors le premier conseil, c'est pas d'affolement. Jusqu'à 4 ans, allez, 5 ans, tous les enfants ont les pieds plats parce qu'il y a effectivement donc, cet amas graisseux qui vient se localiser au niveau de la voûte plantaire pour permettre justement de faciliter les premiers pas de la marche. Donc, on ne traite pas, on ne corrige pas. Il faut accompagner l'enfant. Par contre, il faut surveiller l'évolution. On va dire qu'à 4, 5, 6 ans, l'empreinte doit commencer à se former. Mais je rassure tous les parents, effectivement, tous les enfants ont les pieds plats jusqu'à 4-5 ans.
Donc, Jimmy, vous voyez, c'est pas normal chez vous. C'est juste des pieds trop gras.
C'est problématique. Mais du coup, est-ce que ça change quelque chose dans le choix des chaussures, du coup, avant 4 ans? Est-ce qu'on doit faire plus attention à quelque chose, vu qu'ils sont plats?
Alors, on va vérifier tous les axes du pied. La première consultation va permettre au podologue de réaliser un bilan, un petit bilan musculaire, bilan articulaire. On va regarder les empreintes de l'enfant, s'il est déjà en bipédie, donc sur le podoscope. On va essayer de voir s'il y a des points douloureux, ce qui est assez difficile chez le jeune enfant. Et ensuite, en fonction de l'examen clinique, on va donner les premiers conseils, notamment de chaussage. Effectivement, si l'enfant a un problème de pied plat et que ce problème de pied plat est accompagné avec un, ce qu'on appelle un valgus de la cheville, c'est-à-dire une cheville qui va vriller en dedans, on va plutôt conseiller aux parents d'investir dans une paire de chaussures plutôt montantes qui va permettre de maintenir l'axe de la cheville dans le droit cheminement donc de la jambe.
Pour les enfants qui n'ont rien de particulier, rien de pathologique, on va dire, je crois qu'il y a aussi un autre conseil sur les 0-4 ans. En tout cas, jamais on repasse les chaussures de l'aîné au petit. Pourquoi ?
Comme on va le comprendre, par exemple, pour l'exemple d'une brosse à dents, on ne va pas se refiler la brosse à dents
d'enfant. Des chaussures,
voilà.
C'est un peu moins... Bon, à part les chaussures de Jimmy, moi, j'en voudrais pas. Ça, c'est plutôt une question d'odeur, mais...
Alors, après, se pose le problème de l'hygiène.
Bon,
et puis, se pose aussi le problème de la forme de la chaussure qui va avoir épousé la forme du pied du grand ou du petit. Et donc, on risque de transmettre au deuxième ou au troisième les problèmes du plus grand. Donc, vraiment, on évite...
Les chaussures, c'est personnel.
C'est quelque chose de personnel. C'est pas là qu'il faut faire des économies. Et ça permet aux parents donc de réguler le chaussage des enfants.
Jimmy.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on met comme chaussure à un enfant, je sais pas, qui est entre 1 et 4 ans? Est-ce qu'il faut avoir plusieurs paires? On met toujours la même? Parce que parfois, on hésite à se dire, on veut faire plaisir, ou est-ce qu'il faudrait garder pour la même empreinte une seule et même chaussure?
Bon, là, il veut que vous lui demandiez, que vous lui donniez le modèle exact de la chaussure parfaite pour un enfant.
Alors, les critères, c'est un petit peu compliqué. Nous, au niveau de l'UFSP, on a ce qu'on appelle un cahier des charges avec lequel on travaille chez certains fabricants de chaussures. Les matériaux, c'est plutôt du cuir, plutôt un cuir souple. Voilà, on va plutôt privilégier le lassage donc, plutôt que le velcro. Alors, je sais bien que dans les écoles, aujourd'hui, on va plutôt conseiller le velcro parce que c'est le côté pratique. Qui...
Obligé le velcro, c'est interdit d'avoir des chaussures.
De toute façon, moi, la maîtresse, elle nous a dit que c'était comme ça et pas autrement. Elle a 28 petits enfants maternels, elle dit
pas de scratch,
des baskets à scratch pour
mais
tout le monde.
Pourquoi pas de baskets à scratch?
Alors, parce que ça ne permet pas de maintenir le pied bien confiné dans la chaussure par rapport au lassage. Voilà.
Ouais. Bon, ça, c'est dans la vie rêvée, effectivement, mais bon.
Voilà. L'avantage... dans les écoles, c'est que ça permet de défaire la chaussure assez rapidement. Ça peut se concevoir, même si aujourd'hui, le lassage velcro est de plus en plus performant. Il faut vraiment que le velcro fasse bien tout le tour.
Faut bien serrer le scratch, quoi que ce soit.
Il faut bien
pas lâche,
serrer le scratch, il faut que le pied soit bien maintenu dans la chaussure. Voilà.
Vous avez dit cuir souple, est-ce que toutes les baskets des petits Mohamed conviennent par exemple? Ils sont en basket, vos fils?
Comme la vôtre, elle m'a dit, elle achetait des baskets avec les lumières, un truc
d'un
dessin animé horrible.
Cédé aux sirènes du marketing.
La mère Gomez, elle n'est pas plus exemplaire que le père Mohamed. Ça,
oui, mais elles sont roses, Jimmy, les miennes, alors elles sont jolies.
Alors jusqu'à présent, on parlait de chaussures. Si vous voulez qu'on parle de basket, on peut parler de basket, mais pour moi, enfin pour nous, la basket n'est pas une chaussure.
Ah mince. On a tout faux.
Les matériaux ne sont pas les mêmes et les conséquences sur le développement du pied ne sont pas les mêmes. Donc, chez le jeune enfant, en tout cas, tant que c'est possible, on va plutôt privilégier la vraie chaussure.
C'est quoi, une chaussure en forme d'herbie? C'est quoi, les
chaussures? Oui, alors plutôt large à l'avant pour que les orteils puissent suffisamment bouger, avec, on l'a dit tout à l'heure, plutôt un lassage. Avec
cuir souple, large à l'avant.
Avec une semelle semi-souple ou semi-rigide pour amortir les chocs de contact. Plutôt avec une semelle antidérapante pour que le petit évite de tomber à chaque pas. Et puis, alors en fonction de la morphologie du pied, cette paire de chaussures va remonter au-dessus des malléoles, c'est-à-dire qu'elle va englober la cheville ou pas. Si l'enfant n'a pas de problème de cheville, s'il n'a pas de varus ou de valgus de la cheville, on va plutôt conseiller des chaussures qui vont arriver en dessous des malléoles pour ne pas les blesser. Donc ça, à l'achat, on vérifie bien. Si effectivement l'enfant présente, comme c'est le cas souvent, un pied plat, accompagné d'un valgus, on va plutôt privilégier la chaussure montante.
Bon, on avait tout faux, Jimmy. Je crois qu'en tant que parent, on est nul. Hein. Bon, pour les pieds, on est nul, en tout cas. Allez-y.
Et moi, pour les bovins aussi. Mais si on doit choisir des baskets, est-ce que vous avez des conseils pour choisir une bonne paire de baskets?
Non, mais il veut pas. Laissez tomber.
Non.
Il a dit pas de basket.
Ah non,
honnêtement,
mais
c'est tombé.
Bon, d'accord. Alors, les ongles, alors, on oublie les baskets.
Honnêtement, à ce stage-là, non, parce que vous avez toute la vie après, dès qu'il va prendre le pouvoir.
0-4 ans, pas de basket.
C'est la basket qui va être imposée. Donc après, ce sera difficile de faire marche arrière. Donc, tant que l'enfant Écoute les consignes, je crois qu'il faut vraiment continuer à lui mettre des chaussures.
Moi, à 3 ans, elle obéit plus déjà, donc c'est bon.
Est-ce qu'on doit faire attention aussi aux ongles des pieds des enfants, parce que parfois ils sont un peu mous et fragiles d'ailleurs, est-ce qu'on doit les couper régulièrement?
Oui, alors les ongles de l'enfant sont souvent mous, souvent friables, parce qu'à cet âge-là, la kératine n'est pas complètement présente dans la structure de l'ongle. C'est un petit peu comme...
À quel âge durcissent les ongles des enfants?
On va dire qu'à partir de 4-5 ans, les choses deviennent un petit peu plus aisées, donc on fait attention à la coupe d'ongles, on les coupe régulièrement, on observe en tout cas tous les 15 jours si l'ongle n'est pas trop long. Auquel cas il risquerait de se casser, de se fendiller.
Ça se coupe tous les 10 jours à peu près les ongles du enfant.
Tous les 10-15 jours, voilà, correctement, sans aller dans les ongles pour ne pas créer ou favoriser l'ongle incarné. Voilà. Ça,
comme
c'est
pour nous finalement.
Ouais. C'est exactement la même chose. Exactement
les petites filles, parfois elles veulent des ballerines comme les mamans, mais les ballerines, vous nous aviez dit dans une précédente émission, pour les mamans, vous n'étiez pas du tout d'accord, mais pour les petites filles non plus, je crois.
Alors la ballerine, c'est quelque chose qui est très joli sur le pied de la femme, c'est un petit peu comme les escarpins, mais ce n'est pas véritablement fait pour marcher. Le premier, pour dormir éventuellement. Le premier point négatif de la ballerine, c'est d'abord qu'elle est trop plate. Hein. Ouais. Il faut toujours avoir un petit talon, que ce soit chez la femme ou chez la jeune fille, toujours avoir un petit talon. Chez la femme, on en a déjà parlé, c'est 3,5 cm, 4 cm. Voilà. Et la ballerine ne va pas permettre le déroulé du pas complet. Mmh. Ça, c'est le premier barrage.
Donc sur des petites durées.
Il ne faut vraiment pas. Voilà. Mmh. Par contre, on peut acheter une petite paire de ballerines pour aller faire 2-3 courses, marcher un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit un chaussage habituel et surtout sur une longue distance.
Jamel Bouhabib, on va faire une pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Jamel Bouhabib, vous êtes podologue, pédicure podologue et présidente de l'Union française pour la santé du pied. Alors avec vous, on parle de la bonne santé du pied des enfants surtout aujourd'hui, et à présent on va parler de ce qui peut être pathologique justement chez eux. Alors tout se joue à 4 ans je crois, et c'est justement l'âge auquel finalement on peut faire cette première consultation chez le podologue quand on a une inquiétude, notamment chez son enfant.
Voilà, il faut bien commencer un moment. Effectivement, pour nous, l'âge de la première consultation, c'est effectivement à 4 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il ne faut pas montrer le pied de l'enfant au podologue.
Voilà.
Mais on sait qu'à 2, 3, 4 ans, on a statistiquement de grosses chances de constater un pied plat sur lequel on ne va pas forcément agir. Hein. Donc vraiment, l'âge de la première consultation, c'est 4-5 ans. Ça permet au podologue d'examiner, de faire un vrai bilan podoscopique, un vrai bilan podologique, et de donner les premiers conseils et de mettre en place, si vraiment besoin est, un petit plan d'appareillage par orthèse plantaire, voire même des petits conseils ou une réorientation chez le kiné ou chez l'orthopédiste. Mmh. Mais c'est vraiment, voilà, c'est là que tout démarre.
Jimmy.
Parfois, les parents constatent que les enfants marchent avec les jambes un peu arquées. Est-ce que c'est problématique à partir d'un certain âge? Et du coup, ça peut révéler quel type de problème?
Alors, chez les plus jeunes, en phase d'acquisition de la marche, donc de la bipédie, on a souvent donc des jambes qui vont être en genuvarum, hein, donc en forme de virgule. La croissance n'est pas finie, la charpente osseuse n'est pas structurée, les muscles ne sont pas tous fonctionnels. Donc la station debout érigée parfaite n'est pas encore mise en place.
Et c'est normal.
On a par opposition des enfants qui vont avoir 4, 5, 6, 7, 8 ans et qui vont avoir la structure exactement inverse avec un petit génuvalgum qu'il convient de surveiller parce que souvent ce génuvalgum va être accompagné d'un pied plat ou d'un pied valgus.
Le génuvalgum, voilà. C'est donc l'inverse,
c'est les genoux qui vont se toucher avec une forme en X, si
plutôt.
Vous voulez. Voilà.
Ouais, d'accord.
C'est l'inverse. Hein.
Un enfant qui tombe tout le temps, quand ils sont petits, qu'ils apprennent la marche les deux premières années, on va dire, en tout cas que ça tombe un peu, c'est OK, mais quand à 3 ans, 4 ans, ça continue à trébucher souvent, ça peut être un problème de vue, ça, on en a déjà parlé dans cette émission, mais un problème de pied aussi.
Ça peut être un problème de pied, donc il faut être vigilant. Voilà, il ne faut pas négliger effectivement le fait qu'un enfant tombe souvent. Souvent, comme il ne faut pas aussi négliger le fait qu'un enfant ne veuille pas marcher ou tendre les bras à ses parents parce qu'il dit qu'il a mal aux pieds ou qu'il ne veut pas marcher. Mmh. On se rend compte statistiquement avec l'expérience que souvent les enfants qui n'aiment pas marcher sont des enfants qui ont des problèmes de pieds. Et souvent des problèmes de pieds plats ou de pieds valgus, tout simplement parce qu'ils fatiguent.
Les enfants à 4 ans en poussette, je pensais que c'était juste des petits feignants, mais en fait, non, ça
voilà.
peut être des problèmes.
Et souvent
de
à 4-5 ans, comme ça, quand ils ne veulent pas trop marcher, quand ils se disent papa, prends-moi dans tes bras, ou maman, prends-moi dans les bras, ou à la poussette, hein, on en parlait l'autre jour, les enfants qui arrivent à l'école maternelle à 5 ans ou à 6 ans en poussette, il y a un vrai problème. Donc là, il faut vraiment les emmener consulter le pédiatre, le médecin ou le podologue pour vérifier que tout va bien. Et souvent, on se rend compte que ceux qui sont en principe réfractaires à la marche, présentent une pathologie des membres inférieurs et souvent un pied plat qu'on n'avait pas diagnostiqué.
Jimmy ?
Un motif fréquent aussi d'inquiétude des parents, c'est un enfant qui marchera avec les pieds en dedans, un peu tordu. Est-ce que ça doit les inquiéter? Et surtout peut-être à partir de quel âge, puisqu'il y a un moment où ce n'est pas très grave.
À deux ans, ce n'est pas grave, on m'avait dit moi en tout cas.
Oui, alors, on a souvent ce qu'on appelle un rappel de la position fœtale lors de l'acquisition d'AMH. Donc, on va avoir une adduction des avant-pieds. Voilà, jusqu'à 4-5 ans, on ne s'inquiète pas trop. En général, au fur et à mesure de l'acquisition de la bipédie, les choses se rétablissent. Mais encore une fois, le point d'orgue, le point initial de toute observation, c'est à partir de 4-5 ans. C'est à cet âge-là qu'on va donner les premiers conseils de chaussage, qu'on va mettre en place éventuellement des petits conseils avec des petits exercices.
J'allais vous dire, quel type d'exercice on peut faire à la maison pour rectifier un peu les choses? Je ne sais pas, soit les pieds un peu trop plats, soit ses pieds un petit peu en dedans. Avant de parler, on en parlera juste après, des orthèses plantaires pour les enfants. Mais à la maison, quels exercices vous pouvez leur prescrire à vos petits patients?
Alors, sous forme de jeu, toujours. Donc, on va leur montrer, on va les faire ensemble au départ. C'est par exemple passer du talon à l'avant-pied, donc basculer d'avant en arrière. C'est par exemple marcher sur les côtés des pieds, donc ce qu'on appelle les tranchants des pieds.
Ah oui, c'est ça, voilà. Ça muscle un peu tout ça.
Un petit peu tout ça. Et puis quand on va avoir des enfants qui ont un gros valgus ou des pieds plats, on va essayer donc de réveiller un petit peu la charpente musculaire des muscles liés à la voûte interne et on va leur demander de marcher sur la pointe des pieds pour creuser l'arche interne. Voilà, après il y a d'autres méthodes chez les jeunes filles qui ont des gros pieds plats. Alors là, c'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais on va leur conseiller de porter des chaussures avec un petit talon. Puisque le fait de porter un petit talon va creuser la voûte interne également. Voilà.
Jimmy ?
Parfois, on peut avoir recours à des orthèses plantaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et dans quelle situation on doit en mettre ?
Pour les enfants, oui.
Alors, les orthèses plantaires, c'est un dispositif médical. Ça se réalise sur prescription du médecin traitant, du médecin généraliste, du pédiatre et du podologue. Ce sont des petits appareillages spécifiques qui sont réalisés toujours sur mesure, après un bilan clinique, sur une empreinte, ou ce qu'on appelle donc en thermoformage. Donc, c'est un dispositif médical réalisé sur mesure que l'on va glisser dans toutes les chaussures qui vont se porter tous les jours. Chez les plus jeunes, le but n'est pas de corriger les troubles de la statique, on va plutôt parler de stimulation.
C'est ce qu'on appelle les semelles, c'est ça ?
Voilà, c'est ça,
c'est pareil.
Exactement.
D'accord.
Donc, on va travailler sur de la stimulation.
Parce qu'en orthèse, on dirait qu'il y a une espèce de truc mécanique, mais non, c'est juste une...
Alors, la vraie dénomination aujourd'hui, au niveau du code de la sécurité sociale, c'est orthèse plantaire. D'accord. Mais c'est vrai qu'on reste dans le langage commun, on appelle ça plutôt des semelles. Voilà, donc les orthèses plantaires de stimulation vont être réservées chez les plus jeunes. Et dès lors que les troubles statiques sont constatés, avérés, on va plutôt passer dans la phase de correction en mettant là, à ce moment-là, des éléments dits de correction.
Jimmy ?
Et ça coûte combien les orthèses ou les semelles ?
Alors, les tarifs sont dits en honoraires libres. Bon, une fourchette de prix chez les jeunes enfants va varier entre 90 et 130, 140 euros.
Et qu'on doit garder pendant plusieurs années ?
Qu'on peut être amené à garder pendant 2, 3, voire plus d'années, effectivement. C'est un traitement qui va se faire sur moyen et long terme. Ce n'est pas des traitements qui sont dits fulgurants, dans le sens où vous ne ressortez pas du cabinet avec les pieds qui sont corrigés. C'est tout un travail de rééducation, d'apprentissage, de métamorphose de la chaîne neuromusculaire qui va permettre aux pieds de retrouver les bonnes sensations, la bonne posture et de rééquilibrer la marche.
Merci beaucoup, Jamel Bouhabib, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a compris que la santé des pieds des petits est aussi importante que le reste. On retiendra qu'en cas de doute, la première consultation chez le podologue, c'est à 4 ans dans l'idéal. Merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur un examen peu connu, qui peut faire peur à ceux qui doivent le subir. Un examen qui consiste à analyser la moelle osseuse, le myélogramme. Savez-vous comment il se déroule et si c'est douloureux ? Benjamin Lévesque, notre reporter, a été tester vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Un myélogramme, c'est quoi un myélogramme ?
Ça ressemble peut-être à un électrocardiogramme.
Si je déconstruis miel et gramme, donc un poids de miel, mais ça n'a pas de sens.
Bah pour moi, un myélogramme, ça me fait penser directement au détecteur de mensonges. Une pince sur le doigt et qui bouge et qui fait des pointes, qui monte, qui descend en fonction de si on ment ou pas.
Est-ce que ça touche pas la colonne vertébrale ? Mais je suis pas sûre. Si, c'est ça.
Comme une piqûre et il tire un petit peu pour retirer la moelle.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'on fait un trou dans l'os ou est-ce qu'on trouve une zone qui est suffisamment souple, notamment au niveau des articulations, peut-être.
Peut-être pour mieux détecter les hépatites.
Je pense que c'est une aiguille qu'on rentre dans la colonne vertébrale à l'endroit où il y a la moelle osseuse, je pense. Et on fait une ponction, on retire un peu de cette moelle osseuse et après on la fait examiner en laboratoire, je pense. Mais ça, franchement, c'est compliqué.
Jimmy, on va reprendre du début. Alors, un myélogramme, précisément, c'est un examen qui va s'intéresser à quoi ?
Alors, c'est un examen qui permet d'analyser les cellules de la moelle osseuse. Absolument rien à voir avec la moelle épinière.
Oui, il y a beaucoup de gens qui confondent. Hein.
Exactement.
Attention.
La moelle épinière, donc, c'est ce qui permet de la commande centrale, d'avoir des mouvements. Mais la moelle osseuse, c'est ce qu'on trouve au niveau des tissus mous, au niveau de l'os, et qui permet de synthétiser, de créer les différentes cellules sanguines, que ce soit les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et donc, lorsque vous faites un myélogramme, vous analysez ces cellules sanguines, que ce soit en quantité, est-ce qu'il y en a le bon nombre, et surtout en qualité, est-ce que certaines ont des formes, par exemple, un peu bizarres qui pourraient révéler certaines pathologies.
Très bien, et donc c'est indiqué dans quelle situation un myélogramme, Jimmy ?
Dans l'immense majorité des cas, c'est lorsque on suspecte une pathologie du sang. Lorsqu'on a l'impression que vos globules blancs, vos globules rouges ne marchent pas correctement, ça peut être le cas dans certaines leucémies qu'on peut avoir, dans certains myélomes ou dans certaines thrombopénies lorsque vos plaquettes sont trop basses.
Je vais vous dire une thrombopénie, c'est ça.
On vient chercher justement ces lignées pour savoir est-ce qu'à ce moment-là, les plaquettes sont en grande quantité ou pas, est-ce qu'elles ont une tête bizarre pour poser un diagnostic souvent d'une maladie qui est souvent un peu grave.
Alors cet examen, il fait peur et vous allez nous expliquer justement comment ça se déroule concrètement. Pourquoi ça effraie autant les gens ? Parce que c'est vrai que quand on dit un myélogramme, les gens ne savent pas toujours ce que c'est, mais ils se disent « Ouh là là, ça fait peur ».
Bah oui, le myélogramme, c'est une ponction de moelle osseuse. Et donc, qui ponction, on a l'impression qu'on va vous chercher un gros morceau d'os et que ça va être extrêmement douloureux. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un geste agréable, en particulier chez les enfants, parce que souvent, les maladies hématologiques de l'enfant vont devoir nécessiter un myélogramme. Et donc, on va vous préparer pour vous dire ce qui va se passer. Donc, le but du jeu, c'est de prélever par une ponction aspiration. Donc, on ne va pas vous couper un morceau d'os. Non. Un petit peu d'os au niveau du sternum, puisque c'est un endroit qui est facilement accessible.
C'est là qu'on vient chercher, d'accord.
Ou au niveau de la crête iliaque, c'est-à-dire au niveau du bassin sur le côté.
Donc, ce n'est pas dans le dos, en plus. Hein.
Ce n'est pas dans le dos, rien à voir avec la ponction lombaire. Là, c'est une ponction de moelle. Et donc, avec une petite seringue, on fait d'abord une anesthésie locale. Et puis, avec un trocar, on va essayer d'aspirer un petit peu de sang finalement, puisque c'est pas de l'os réellement qu'on va vous prélever, il y a pas de l'os qui va sortir au niveau de la seringue.
Mais sur la zone où on prélève, en tout cas, c'est anesthésié, normalement on sent pas.
Localement.
C'est pas douloureux donc du tout.
C'est pas douloureux, alors c'est pas non plus.
Vous disiez c'est pas agréable.
C'est pas agréable.
On doit sentir un peu l'aspiration.
On sent
même.
L'aspiration, c'est un geste qui nécessite quand même d'atteindre l'os, donc il y a un mouvement de trocar, comme si on a l'impression qu'on va chercher un petit peu loin, donc c'est pas super agréable. Il y a pas besoin d'être hospitalisé pour ça, même si parfois on est hospitalisé puisque votre maladie nécessite une prise en charge.
Il y a peut-être d'autres examens à faire derrière.
Exactement. Ouais. On en a pour maximum 15-20 minutes.
Pour l'acte en lui-même.
Pour l'acte
en
lui-même. Vous pouvez remarcher dans la foulée. Et puis après, il y a un temps d'examen qui est parfois un peu plus long pour avoir un diagnostic suite à au prélèvement.
Et ça va me laisser un trou dans le sternum, non ?
Absolument
bouche,
pas, comme une prise de sang. Non, que vous avez.
On
met un petit pansement et on n'en parle plus. Et puis derrière, c'est de savoir qu'est-ce qui vous arrive. En règle générale, quand on recherche ça, c'est qu'il y a une pathologie un peu plus grave. Et donc, vous savez malheureusement qu'il y aura d'autres examens derrière.
Les résultats, on les a assez vite en général
Ça peut être assez rapide. En 24-48 heures, on a des résultats partiels. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais c'est quand même assez rapide.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, évidemment. Et puis, pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Je vais bien, et vous Mélanie ?
Parfaitement.
Alors, Jimmy aussi ?
Comme toujours,
égal à
moi-même. Hein. Je n'ai pas l'air, mais je suis très heureux. Très
heureux. Oui, ça ne se voit pas, mais ce n'est pas grave, on a l'habitude. Allez, aujourd'hui, on va
lire entre les lignes.
C'est ça. À cette question de Geoffrey. Ma copine est enceinte de 4 mois. Je suis aux petits soins pour elle. Un petit ventre est déjà là. Elle se plaint que nous ne faisons plus l'amour, mais de mon côté, je n'y arrive pas. Je lui ai dit que la présence du bébé dans son ventre me bloquait. L'envie de faire l'amour, que faire ? Catherine, c'est fréquent, hein, non ? Les hommes comme ça qui n'osent plus faire l'amour, toucher leur femme quand le ventre commence à sortir, le bébé est au milieu, ça peut être un peu paralysant pour certains hommes.
Absolument, parce qu'on peut être très joyeux de faire un bébé, un peu moins joyeux d'avoir l'idée que ce bébé est au cœur d'une sexualité des parents. Donc évidemment qu'il y a tous les fantasmes possibles et inimaginables qui sont à l'œuvre à ce moment-là. Bien sûr, c'est inconscient chez le papa qui, de toute façon, a beaucoup à faire en s'occupant de sa compagne et de jouer son rôle de papa protecteur et de mari super-héros. Donc en fait, dans les fantasmes qui sont angoissants, c'est que d'abord, souvent, il y a l'idée qu'on pourrait blesser le bébé.
Oui.
Alors que, rappelons-le, l'utérus et
c'est
le vagin
possible.
Ne
Une
sont
fois pour toutes, c'est que soyons clairs,
ça n'est pas,
c'est pas
possible.
Possible.
Quand bien même, monsieur aurait le sentiment d'avoir un pénis énorme.
Même si c'est énorme, ça ne marche pas
voilà,
comme ça.
Voilà, ça ne marche absolument pas comme ça. Il n'y a pas de communication entre cet utérus qui est fermé comme un coffre-fort dans lequel est le bébé et le vagin qui, lui, a une capacité d'élasticité, donc de s'étendre au maximum de la longueur de ce super pénis sans pour autant, évidemment, rentrer dans l'utérus.
Bien sûr. Jimmy.
Non mais Geoffrey a le droit de ne pas avoir envie, mais est-ce qu'il doit un peu... C'est-à-dire faire un effort, mais...
Ah, vous êtes le roi de les efforts.
Ah ouais, Jimmy, Jimmy, c'est son truc. Tout le monde doit faire un peu des efforts.
Ça va durer 9 mois à peu près, la grossesse.
Ils sont à 4 déjà, elle dit, à 4 mois là.
4 mois, donc encore 5 mois d'abstinence, c'est peut-être compliqué, surtout si elle dit que ça la frustre. Donc est-ce qu'il doit se forcer?
Surtout qu'elle, au bout d'un moment, elle n'aura peut-être plus envie non plus.
Bah, peut-être qu'il sera lui, il aura peut-être envie à ce moment-là. Donc ça, voilà, c'est peut-être le moment d'aller de... Bah de d'y aller, quoi. On va pas faire les fragiles.
Je pense que quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et vous savez très bien que quand un homme ne le sent pas ou n'est pas du tout branché dessus, il pourra faire ce qu'il veut. Son pénis, de toute façon, ne se dressera pas pour pouvoir mettre une pénétration de toute façon. Donc le but, ce n'est pas d'en faire un sujet. Évidemment qu'il a d'autres moyens d'apporter de la tendresse, du plaisir sexuel également, sans être obligé de s'imposer une pénétration si elle est anxiogène pour lui, s'il ne trouve pas d'érection ou s'il a l'angoisse d'être dangereux, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure.
Il y a aussi aucun rapport sexuel pendant 9 mois.
Oui, oui, bien sûr. Alors évidemment, on peut dire que idéalement, je ne parle même pas pour les parents, idéalement même pour l'enfant, des études ont montré que faire l'amour, et si la mère jouit évidemment, eh bien ça stimule un système nerveux qui stimule le système nerveux de l'enfant, donc c'est très positif.
Ça lui fait du bien même au bébé. Quoi.
Voilà.
Enfin, mais je suis pas sûr que ça va rassurer.
Pour
ça,
son développement.
L'orgasme va faire du bon bébé, franchement, pour Geoffrey qui a l'air un peu angoissé, voilà, c'est dur à expliquer.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que le système nerveux est tout à fait, au contraire, en éveil, tout ça est très intéressant pour le développement et la tranquillité de tout le monde. Mais le fait est que la psychologie est autre chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses, pareil pour l'allaitement, si on peut trouver des tas d'intérêts physiologiques à l'allaitement, on peut comprendre que la psychologie me fasse barrage total. Eh bien, ça, c'est le cas également pendant la grossesse. Donc, de toute façon, c'est un moment où si... on n'est pas disposé à cela, eh bien, il faut pouvoir donner autre chose. Et évidemment que viendra, comme vous le disiez tout à l'heure, Jimmy, eh bien, viendra le temps où elle n'aura peut-être plus envie parce qu'elle sera en train d'allaiter. Eh bien, chacun à son temps, eh bien, acceptera la frustration.
Et puis, s'il n'y a pas de rapport sexuel, ils peuvent développer autre chose, d'autres façons de faire les choses à ce moment-là.
Bien sûr. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une autre, bien sûr, qu'il y a d'autres choses à développer. On a bien compris. Et votre sourire goguenard, Mélanie, en dit long sur tout ce qui serait à développer. Mais le fait est... Non, c'est pas parce que les auditeurs ne voient pas qu'on ne peut pas leur dire. Bien sûr,
tout ce qu'on n'aime pas, la pénétration, l'acte sexuel, voilà, c'est pas juste un but ultime.
Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire.
Absolument, mais il y a des tas de choses à se faire si on veut se faire des choses, mais on n'est pas obligé de sexualiser ça. C'est un moment où on peut avoir envie d'être plus au rendez-vous de la parentalité. Arrêtons de vouloir mettre du sexe partout. Ce qui pose un problème, c'est quand il y en a un qui en veut et l'autre qui n'en veut pas. Et donc, il faut trouver en effet les compromis. Mais sinon, nous, ici, dans ce studio, on n'a pas imposé à un couple ou à une laisser imaginer un couple qu'il faudrait absolument qu'il fasse l'amour pendant toute la grossesse durant. Et puis, dès qu'elle aura accouché, etc.
Chacun à son rythme.
Chacun à son rythme. Et comprenons aussi que pour les hommes, ce peut être une angoisse de castration. C'est-à-dire qu'il a fait l'amour une fois, maintenant il y a un bébé à l'intérieur. Donc maintenant, il réserve son pénis histoire de ne pas se le faire couper en rondelles pour faire d'autres bébés. Donc, il y a de la psychologie qui se mêle à tout ça.
Il y a bien un moment où il ne risque pas de faire d'autres bébés, c'est là. Hein, mais bon.
Oui, mais c'est ce qui peut être source d'inquiétude. Donc, il faut le comprendre et puis faire ami-ami avec ses peurs en voyant que c'est tout ça une construction psychique, bien évidemment.
Et puis, il ne reste que 5 mois. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, demain, dans ce rendez-vous, on prendra soin de vos oreilles. Voilà, tout de suite, on retrouve Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Alors, avec Mathieu, aujourd'hui, on a une émission en or pour vous. C'est tous ces inventeurs qui sont morts de leur invention. C'est ballot, hein, c'est un peu idiot. Oui, les morts les plus cons de l'histoire.
Ah, si on peut le dire. Oui, la mienne est particulièrement con, Stéphane. Oui. Je ne sais pas les vôtres. Vous nous parlez.
Moi, c'est Thomas Andrews. Ah. Vous savez, c'est l'architecte qui a construit le Titanic et qui était dans la...
Dans la croisière inaugurale.
Oui. C'est dommage pour lui. C'est mal passé. Il est plusieurs milliers de lieues sous les mers.
Comme le capitaine Nemo, oui.
Et puis ensuite, nous parlerons de Marie Curie. Vous savez.
Vous mettez une main sur le cœur.
Oui, parce que j'aime beaucoup Marie Curie. Elle a fait beaucoup de travaux sur le radium et malheureusement, elle a été.
Radioactivité. Déradié, oui, à sa manière. Moi, je vous parlerai d'un mort plus proche de nous, le patron de Segway. Vous savez, c'est ces trottinettes électriques un peu ridicules. Il était le patron de cette entreprise et un jour, il a voulu tester son Segway et il habitait au bord d'une falaise.
C'est bête, oui.
C'est con.
Je ne devrais pas rigoler, mais merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une très belle émission. On sera à l'écoute, bien sûr, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.